Bienvenue tout le monde sur la POC édition post-marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. Je suis vraiment très, très heureux d'être là à l'animation de ce beau programme. Mon nom est JB Gagné et avec moi cette semaine, le seul et unique. Puis là, sont deux, fait que ça demande en crise lequel des deux que je vais dire ça, parce que l'autre, je vais dire un message à mort. Jerry Godbout!
J'ai gagné.
T'as gagné?
C'est moi. Ben ouais.
Et l'autre, on commence à être beaucoup trop habitué, pour les meilleurs et pour le pire, avec nous, Sylvain Rioux. Non. Ben oui, Sylvain Rioux est avec nous.
Ben ouais, c'est ça, on a déjà vu les meilleurs intros, mais bon.
Effectivement. C'est pour faire
ça, tu sais, moi aussi, je suis à peu près content d'être là. Il fait 42 degrés, ça me coule d'arrêt, puis on parle de hockey, mais c'est super le fun.
Tu me fais chier avec un intro de marde, puis
je sais.
C'est ça. Mais tu le sais, hein, Sylvain, la seule. La langue m'a fourché.
Moi, je m'en vais. C'est quoi ça va être un nouveau perk de notre Patreon, ça?
Ouais, on a
une. Trouver des insultes à Sylvain pour 5$ par mois, là.
Exact. Ouais, c'est ça. Insulter Sylvain, c'est 5$ par mois. Non, je vais vous compter.
On peut-tu mettre 10 au moins?
Ben là, ça vaille la peine, là. Mais oui, on a un nouveau Patreon. Si vous voulez encourager la POC, nous aider à pouvoir améliorer, tu sais, entre autres, le micro à Jerry, là, ça pourrait être une des affaires qu'on pourrait faire. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir passer des extraits audio sur le show. Je suis capable de le faire. Le problème, c'est de le faire entendre aux deux autres boys sur le show. C'est le genre de truc que j'aimerais pouvoir ajouter à l'émission, mais que pour ce faire, ben ça prend un investissement financier. Et votre aide est extrêmement la bienvenue. On a déjà un patron et pas le moindre. Je vous dis ça tout à la fin de show. Je vais vous nommer les perks parce que je me suis amusé comme un petit débile léger que je suis avec des noms de perks et des petites anecdotes à travers tout ça. Mais je reviens à la joke de Sylvain. Je voulais dire que tu sais pourquoi, Sylvain, que je fais ça, hein, que je te plante un petit peu. C'est pour te signer moins cher puis te garder avec le club.
Ah, OK, ouais.
C'est pour ça.
Ah, c'est comprenable dans ce cas-là.
C'est comprenable. C'est ça. J'ai trop peur que tu me laisses pour Dallas. Comme Carson.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu vas partir avec Carson. Moi, j'aime pas ça. Bon, on parle cette semaine. On fait un retour sur le marché des agents libres dans la Ligue nationale. Il y a eu plusieurs signatures de très gros dossiers. Et Max Pacioretty. Hey, on va l'avoir, hein? Max Pacioretty est encore avec le Canadien de Montréal. On va commencer la discussion en parlant de ce qui s'est fait chez le Canadien de Montréal et je veux connaître votre évaluation, les boys, du travail de Marc Bergevin. Êtes-vous satisfait ou non jusqu'à maintenant du magasinage du grand patron du Canadien de Montréal?
Hey, je peux-tu commencer pour que le monde voie que je suis pas juste du négatif?
Vas-y.
Ben oui.
Ben, tu sais, honnêtement, là, Marc Bergevin, il a fait la job qu'il devait faire, c'est-à-dire ne pas pitcher son argent par les fenêtres, surpayer des gars à la Carl Osner. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a pris des gambles qui coûtent pas tellement cher. Tu sais, moi, on en a déjà parlé ensemble, moi et toi, JB. Puis, tu sais, moi, Xavier Ouellet, ça peut... Tu sais, si ça marche pas, ben tant pis, ça n'a pas coûté grand-chose. Si ça marche, ben ça peut être un coup de circuit qui t'a à peu près rien coûté. Tu sais, je suis content qu'il n'ait pas embarqué dans aucune des surenchères puis aller donner des offres ridicules à des gars qui le méritaient pas vraiment. Bon, Thomas est revenu, mais bon, tout ça, on le savait pas. C'était probablement le secret le moins bien gardé de l'univers. Mais bon, au moins, c'est juste pour un an. Puis, tu sais, le salaire est raisonnable. Je sais qu'il y a des clauses de bonus qui sont rajoutées à ça, qui pourraient faire monter son salaire à entre 3,5 et 4. Mais c'est ça. Sinon, regarde, good job. C'est conséquent avec qu'est-ce qu'il était censé faire.
Ouais, je suis curieux des bonus, là. On sait le montant. Il peut aller chercher jusqu'à 1,25 million de dollars en bonus, mais on ne sait pas C'est rattaché à quoi? C'est des performances, mais c'est-tu le nombre de matchs? C'est-tu, mettons, un pourcentage de mise en jeu remportée? Parce que ça peut être à peu près n'importe quoi, là, cette clause-là. Est-ce que c'est juste d'enfiler le jersey pour un match, puis l'objectif, c'était de bien paraître au 1er juillet, tu sais, avec un salaire plus bas qu'en
ben,
réalité?
D'après ce moi, ça doit être des objectifs assez simples à atteindre, style joue 40 matchs, lave ton col roulé au moins une fois par semaine. Tu sais, des affaires de même, là. Des affaires pas trop compliquées, là.
Toi, Jerry, ah, ton analyse?
Honnêtement, moi, je suis pas dans la même vague que Sylvain. Je suis content, en fait, qu'il ait pas fait grand-chose, dans le sens que j'avais peur. T'sais, genre, le dernier show que j'étais là, ben, j'avais peur qu'il donne comme un 7 millions à Stastny pendant je sais pas combien d'années. J'avais peur de ça, dans le sens qu'il fasse plein de conneries. Finalement, ben, il a rien fait de ça. Fait que c'est bien. Il garde son cash. Puis ça, c'est merveilleux. C'est quoi?
On a vu, moi, là, tu sais, je surfais un petit peu là, les pages là, de TVA Sport, RDS. On a vu plusieurs amateurs dire « Bon, ben c'est ça, hein, Bergevin, il n'aide pas le Canadien encore. Il a pas fait la job. Il n'est pas allé signer les joueurs dont on avait besoin. » Et je me demande sincèrement si les amateurs du Canadien de Montréal comprennent la situation de l'équipe. En ce moment, là, en ce 4 juillet, au moment d'enregistrer, le Canadien de Montréal a un seul attaquant qui a plus de 30 ans. En fait, il y a Max Pacioretty qui est plus âgé que les autres. Là. Il y a comme 27, 28, là, une affaire de même. T'as Shea Weber qui est vraiment plus âgé que le reste de la défensive. Quoique la défensive du Canadien est quand même une des plus vieilles de la Ligue nationale. Et t'as Carey Price. Ce sont les trois gros morceaux du noyau en termes de vétérans qui restent avec la formation. Et on le sait, Max Pacioretty, les rumeurs sont nombreuses qu'il ne terminera pas la saison ou même qu'il ne jouera pas cette année avec le Canadien. Je serais extrêmement surpris qu'il signe même une prolongation de contrat avec l'organisation. Je serais vraiment surpris. Ce qui amène à croire que la fameuse reconstruction là, que Marc Bergevin veut pas, là, un retool comme qu'il appelle, ben, il est subtilement en train de le faire sans l'avouer pleinement. Et le fait de ne pas tomber dans le panneau, de surpayer des joueurs marginaux qui auraient comblé ish des besoins de l'organisation, c'est pour moi une excellente chose. C'était ce qu'il devait faire et pour une fois, je enregistrais ça, là, quelqu'un, là, mais avec un feu,
ben,
enregistrer la date. Oui, c'est ce que je fais là, mais je veux garder des preuves. Là. Je suis content du travail de Marc Bergevin.
Mais tu sais, moi, si je peux juste rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que tu parles de certains partisans qui n'ont pas l'air de comprendre ce qui se passe en ce moment avec le Canadien, mais encore là, bien humblement, je crois, et c'est pas juste pour être négatif, mais parce qu'on n'appelle pas les choses par leur nom, c'est ce qui est en train de se passer là. Parce que justement, on n'est pas capable de dire qu'on est en reconstruction, qu'on utilise le reset. Ben, je pense que le fan moyen ne peut pas faire la différence. Puis lui, il est frustré parce qu'il regarde juste cette année. Tu sais, il dit ah, on aurait été meilleur avec Stastny. Peut-être cette année, t'aurais été meilleur avec Stastny, mais dans 4 ans, non.
Et s'il y a une affaire que Bergevin a, tu sais, stratégiquement parlant, tant qu'à pas signer personne, aussi bien aller signer des gars comme il le fait avec une résonance positive dans le public. Je parle ici là de joueurs d'origine québécoise. On parle d'un Xavier Ouellet, on parle de Michael Chaput. Tu parles même de Mathieu Péka, qui est pas le fils de Michael, mais qui, tu sais, hey, ça résonne positivement dans l'imaginaire collectif. Allons-y avec ça. Thomas Pekat, qui est un vétéran connu et reconnu dans l'organisation, avec, oui, ses détracteurs, mais il y a quand même des fans de ce joueur-là, dont moi, je ne fais pas partie. Mais au moins, là, il comptera pas pour 6 millions sur la masse salariale. Mais il est allé faire des signatures qui, même si tu veux faire des reproches aux Canadiens de ne pas avoir été chercher des grosses pointures, ben au moins le fait français puis québécois, ça, ça vient patcher une petite fibre identitaire qui va résonner positivement chez bien des fans. Fait qu'on a été comme chercher le meilleur des deux mondes. Tant qu'à moi, là, on n'a pas fait d'erreur ni d'un bord ni de l'autre, puis on a fait, l'air de rien, on a fait un statu quo, tu sais. L'organisation aujourd'hui est clairement pas meilleure que l'an passé.
Non, mais pas plus dans le pétrin aussi. C'est comme Paul Stastny à 6,5 pour 3 ans, je m'excuse, j'aurais pas fait ça. Mais le 2,25 pendant un an de Tomáš Plíšek, je vais clairement très bien vivre avec. Parce que l'année prochaine, il signe encore un an pour 1,5.
Imagine,
ça donne du temps.
Imagine, le Canadien pourrait même, à la date limite des transactions, s'il y a une saison décente, pourrait même l'échanger encore une fois.
Ouais, puis ça te redonnerait. Il te donne du stock, le Tomáš Plíšek.
Ben, c'est ça. Donc, moi, de ce côté-là, sincèrement, là, chapeau, Marc Bergevin. C'est une job qui n'était pas évidente. C'était facile de crouler sous la pression des fans, de dire, ben écoute, faut continuer à essayer d'être compétitif ou donner l'illusion d'être compétitif année après année. Ça passe par les UFA, ça passe par des transactions un peu boboches à la date limite. Cette année, Marc Bergevin n'a pas tombé dans le panneau. Est-ce qu'il a maximisé, comme on le disait sur le dernier show, Max Pacioretty? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'il a maximisé le marché des UFA en allant chercher des plus jeunes joueurs? Je suis pas convaincu, mais à tout le moins, il n'a pas causé de dégâts.
Oui, c'est ça. Ben, il n'a pas fait comme les Blues de Saint-Louis qui ont été chercher Tanner Bozak à 5 millions pour 3 ans, qui ont donné Mère et Lune pour Ryan O'Reilly.
Hey, ça n'a pas de bon sens, là.
Ben, c'est ça. Les Blues de Saint-Louis, pour moi, là, présentement, même s'ils ont été chercher des effectifs pour combler des lacunes, se sont amputés dans l'avenir, ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, c'est même Détroit, on dirait que je comprends pas où ils s'en vont. C'est un club qu'il faut qu'ils se rajeunissent. Ils sont là à signer Jonathan Bernier. Ils re-signent Mike Green. On dirait que je comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Il y a des contrats, exemple Vancouver, qui eux aussi, il faut qu'ils se rajeunissent. Ils signent Antoine Roussel à 3 millions pendant 4 ans. Puis, tu sais, ils donnent des contrats un peu mon gueule, comme mettons Sven Barchi, que j'ai aucune idée pourquoi ils ont donné autant d'argent. Moi, honnêtement, là, présentement, ce que le Canadien a fait, j'aime beaucoup mieux ça que justement Vancouver, Détroit. Puis en plus, c'est des clubs qui sont dans une situation pas pareille, mais presque semblable, dans le sens que ils n'auront pas besoin de s'encombrer de contrats, surtout pendant 4 ans, 3 ans, je veux dire, à un moment donné. Si tu as rempli des jerseys, j'aime pas mieux que tu les remplisses par des jeunes de l'organisation que de signer des joueurs pour signer des joueurs. T'sais.
Parlons-en. J'avais ça dans mes sujets un petit peu plus loin, mais là, tu as abordé ce thème-là, l'échange de Ryan O'Reilly. Le Canadien de Montréal a été longtemps impliqué dans des rumeurs de transactions à propos de ce joueur de centre-là. Semble-t-il que même il y aurait une transaction qui aurait avorté au repêchage. J'en ai parlé sur le dernier show. On parle d'une transaction dans laquelle il y a plusieurs éléments qui ont basculé depuis les Sabres vers... un élément des Sabres vers les Blues et l'inverse, une grosse barge de stock. Svobodka, Berglund, le prospect Tage Thompson, choix de première ronde en 2019 et choix de deuxième ronde en 2021. Tout ça pour Ryan O'Reilly. Je regarde là juste statistiquement Patrick Berglund cette année, 17 buts, 26 points en 57 matchs et Svobodka a 31 points cette année. C'est pas des joueurs de premier plan, mais ça reste quand même des éléments qui sont capables d'aider une formation. Et Tage Thompson, qui est un joueur de centre de 20 ans, 9 points l'an passé avec les Blues et moins 12, là, ça n'a pas été nécessairement une grosse année pour lui, mais c'était sa première dans la Ligue nationale. C'est un jeune qui a un bel avenir, plus le premier choix, plus le deuxième choix. Sincèrement, est-ce que le Canadien avait les ressources pour aller chercher un Ryan O'Reilly?
Non.
Moi, je pense pas, là.
Ben non. Ben
je pense que oui. En toute honnêteté, là.
Ouais,
tu sais, si tu veux donner soit un Sherbach ou un Lekkonen.
Tu sais. Ouais, mais c'est pas avantageux pour le Canadien de faire ce transfert-là.
Ouais, mais.
bien beau que t'aimes Ryan O'Reilly. Là. Moi, tout, je l'aime, Ryan O'Reilly. C'est un bon centre, deuxième dans plusieurs équipes. À Montréal, c'est clairement, c'est unanime que c'est le premier centre. Sauf que honnêtement, là, ce joueur-là n'aide pas le Canadien l'année prochaine.
Non. En fait, moi, le seul gros bug que je trouve dans cette transaction-là, qui est un point d'interrogation encore là, puis tu sais, on va le savoir dans 5-6 ans qui a eu le meilleur vraiment, mais le premier choix. C'est la seule chose que je trouve qui peut être surpayé, tout dépendamment de qui va être drafté. Mais encore là, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas où est-ce qu'il va être. Est-ce qu'il va être top 10 ou est-ce qu'il va être aux alentours de la 27e place? Puis, tu sais, qui vont drafter avec ça? C'est tout là les points d'interrogation. Mais si le premier choix est un flop, je trouve que les Sabres n'ont pas tant payé que ça. Parce que Berglund, c'est une espèce de patate chaude que ça fait une couple d'années qu'il ne savait pas trop quoi faire avec.
Ouais, il reste 4 ans de contrat à 3,85 comme moyenne. Ouais, c'est ça. C'est pas un contrat qui est évident. C'est quand même un dump qu'on a fait du côté des Blues. Là. Même chose pour Zobotka qui est quand même 3,5 mais pour 2 ans encore. Je pense que le tu sais, c'est ça. Le core de la transaction, c'était un dump de salaire. C'est quand même presque 7 millions qu'on débarque versus O'Reilly, qui est lui 7,5. Et après ça, ben, Tage Thompson et les deux choix. C'est dans la lignée de ce que les Sabres de Buffalo ont besoin de faire, par exemple. Il y avait besoin d'aller chercher des jeunes, puis c'est ce qu'ils ont eu en retour de O'Reilly. Par contre, comme on disait, ben, que moi je mentionnais sur le dernier show, je considère qu'il n'y avait rien qui pressait, et pour l'organisation des Sabres, ça aurait peut-être été une meilleure idée de le garder. Mais là, ça ne sera pas le cas.
Ben, pas vraiment, parce que si on se rappelle à quand les joueurs des Sabres ont été vidés leur locker là, après la saison, là. Je sais pas si vous vous rappelez des déclarations de Ryan O'Reilly.
Je sais, il voulait plus revenir, mais...
Il était comme brûlé, là. C'était à peu près sûr et certain qu'il ne remettait plus les pieds dans ce vestiaire-là. Puis à un moment donné, ben, tu sais, sa valeur a comme pogné un pic autour du draft. Si ce qu'on a entendu était bel et bien vrai de l'œuvre du Canadien, ça aurait pu être plus intéressant. Mais, bon, là, ils sont ramassés avec ça, puis tu sais, c'est ça. C'était comme une patate chaude, ils pouvaient comme pas commencer l'année-là, parce que probablement qu'il y a des gars dans ce vestiaire-là qui voulaient plus le revoir là aussi, puis tu sais, puis lui, il avait clairement plus le goût de s'en aller là, fait.
Ouais, ça devient toxique, ça, c'est sûr, sûr, là, mais...
C'est ça, tu veux pas vivre un match de chaîne 2.0.
Mais sur papier, reste que... il y avait peut-être moyen de le convaincre, de jaser avec lui. Force est d'admettre que c'est pas arrivé, là, mais il y aurait peut-être eu moyen. En fait, l'organisation aurait peut-être eu avantage à faire tout ce qu'elle avait pour pouvoir le conserver. Mais bon, ce ne sera pas le cas. Autre transaction qui a marqué le paysage médiatique, à la veille de la date limite, pas de la date limite, là, mais de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le Canadien de Montréal a transigé avec les Jets de Winnipeg. On envoie Simon Bourque, qui est un prospect, là, un ancien, je pense que c'est un choix de 6e ronde, là, c'est rien d'énorme. En retour, le Canadien reçoit Joel Armia, qui est un ancien choix de première ronde des Sabres de Buffalo, justement, qui a un peu éclos là, cette année avec la formation des Jets, en fait l'an passé. Steve Mason, le gardien de but, il restait une année de contrat que le Canadien a racheté. Choix de 7e en 2019 et choix de 4e ronde en 2020. On s'entend, là, les pics, là, c'est rien de énorme. Autrement dit, on a fait un trade à la Tara Vinen ou encore à Cruz du côté de l'Arizona. On a échangé de l'espace sur la masse salariale versus un prospect. Une autre transaction qu'il y a quelques années, j'aurais pas cru que le Canadien de Montréal aurait embarqué là-dedans et aurait profité de son espace sur la masse salariale.
Ben écoute, moi je pense que celle-là, tu sais, Marc Bergevin a toujours été reconnu pour frapper des circuits en allant chercher des gars de même. Moi, je pense que Armia, parce que d'après moi, il va avoir bien des opportunités ici qu'il n'aurait jamais eu à Winnipeg. D'après moi, là, on va assister à une genre d'histoire d'amour à la Day-Louise.
Peut-être un peu meilleur que Day-Louise.
Oui, mais ce que je veux dire, tu sais, l'histoire d'amour avec les partisans puis tout, puis que tu sais, ouais, qui va arriver ici puis qui va faire un 15 buts peut-être là, puis que tu sais, bang, ça va être une transaction de génie, puis ça va être une, c'est une excellente transaction. Puis encore là, le pire qui va arriver, Armia, ça marchera pas. Ciao, bye. Tu sais, il a comme pris une chance sans vraiment prendre une chance, sans mettre rien en jeu, tu sais.
C'est parce qu'en fond,
Simon Bourque est passé là parce qu'il fallait qu'il y ait un joueur qui aille de l'autre bord, puis il a probablement donné celui qui avait le moins de chance de s'en venir là, tu sais, de se rendre dans la NHL, puis c'est ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment un excellent move. J'ai toujours bien aimé Joel Armia. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis c'est ça, mais encore une fois, chapeau à Marc Bergevin. C'est, ouais, c'est un beau move.
25 points l'an passé, 19 la saison précédente. C'est un joueur de 25 ans. Là, on s'entend, là, il vivote un troisième, au mieux, voire un quatrième trio au maximum. C'est le genre de position qui a énormément d'élus, d'appeler très peu d'élus chez l'organisation du Canadien de Montréal. J'ai l'impression que le trois quarts des joueurs de l'organigramme visent ce genre de spot-là. Le seul truc, ça sera de voir comment est-ce que Marc Bergevin va être en mesure de négocier sa nouvelle entente. C'est un joueur qui est sans contrat en ce moment et qui est RFA, donc on a encore un contrôle sur sa destinée, là, mais t'sais, tout dépend. Là. C'est un bon deal si tu le signes à 1 million pour 2-3 ans, mais si tu le signes à 3, ben, c'est pas mal moins une bonne idée.
On va peut-être faire la situation Andrew Shaw.
3.9. Ouais, non, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Parlons maintenant du marché des joueurs autonomes qui s'est ouvert le 1er juillet en même temps que la canicule et les déménagements. Moi, j'ai classé, je n'ai sorti là, quelques-unes là, des signatures. Je me suis fait un tableau avec les mauvaises signatures et les bonnes signatures. Avec lesquelles vous voulez qu'on commence?
Vas-y donc comme tu le sens.
Ouais, OK.
Ouais. Ouais.
On va commencer ça soft avec les bonnes signatures. Et celle qui était en plus la plus marquante durant ce 1er juillet, c'est bien sûr le débarquement de John Tavares du côté de Toronto. Un contrat de 7 ans, 77 millions de dollars, donc un total, un cap space de 11 millions par saison. Ça, c'est une grosse bombe et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est le premier move majeur du nouveau DG de l'organisation, Kyle Dubas, qui était le protégé de Lou Lamoriello, DG de l'organisation que quitte John Tavares. Et donc, le poulain a dépassé le maître dès ses 2-3 premières semaines de travail. Vous en pensez quoi de cette signature-là? Moi, je la mets du côté des très bonnes parce que on aurait pu s'attendre même à un montant plus élevé. On avait des rumeurs comme quoi là, il y avait des clubs qui étaient prêts à coter le maximum pour un joueur, là, le maximum possible en termes de salaire, et que malgré tout, c'est plus bas que ça. Il est moins payé que McDavid sur le plan cap hit. Fait que moi, je suis un peu étonné même du montant.
Ben écoute, moi, ce qui me fait le plus halluciner dans toute histoire-là, là, c'est parce que je suis d'accord avec toi, c'est une Moses de belle signature. Moi, ce que je trouve beau dans toute histoire-là, là, puis tu sais, vous pouvez dire que j'étais un grand romantique, là, mais tu sais, moi, quand il a tweeté la photo de lui qui dormait dans des draps, des lits, tu sais, puis qui dit c'est pas tous les jours que tu peux réaliser ton rêve de petit gars, ça vient me chercher. Puis, tu sais, on a tendance à l'oublier, là. Mais ce gars-là avait un offre sur la table des Sharks de San Jose, 7 ans, 13 millions. Il a laissé 14 millions sur 7 ans sur la table pour aller jouer chez eux à Toronto. Il en a laissé 16 à Long Island, parce que Long Island, l'offre, c'était 8 ans, 13 millions. Donc, il a laissé un gros magot sur la table pour aller jouer chez eux, pour aller gagner. Écoute, moi, je capote là, je trouve ça vraiment. je trouve vraiment que c'est une belle signature. J'ai bien hâte de voir ça.
Ouais. Puis en plus, c'est pas un environnement qui va être facile pour lui. Hein. Il est d'ores et déjà l'une des deux faces les plus importantes de l'organisation avec Matthews. Il arrive dans un environnement où est-ce que Matthews est contesté, dans le sens que lors des dernières playoffs, il y a eu des frictions avec l'entraîneur. Là, tu as une nouvelle tête forte qui débarque, qui va vouloir faire sa place, mais qui en même temps veut pas remplacer le joueur qui était déjà en place. Il n'y a pas de C dans cette organisation-là. Il n'y a pas de capitaine. Alors, est-ce qu'on va prendre Tavares, qui l'a toujours été, ou on donne quand même le gun puis le lead aux jeunes qui a tiré le club dans les 2-3 dernières saisons? C'est un beau défi. Puis en plus, faut pas l'oublier, là, Toronto, c'est une ville de hockey. À Montréal, ça chiale, ça parle des médias. Oui, mais Toronto, ça chiale tout autant, ça parle tout autant. Ils ont encore, je pense, encore plus soif de victoire que les gens à Montréal. Ils sont plus à même de demander à avoir des victoires et leur avoir concrétisé toutes ces années-là à ne pas avoir de succès. Écoute, ça fait quoi, 45 ans maintenant, presque 50 qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Il y a des très très hautes attentes qui viennent avec ce genre d'entente-là, avec ce genre de mouvement-là. Oui, il signe dans sa ville natale, oui, il signe avec son club d'enfance, oui, il réalise un rêve, mais ça pourrait virer au cauchemar. Il s'est pas mis dans un environnement facile. Il l'a pas pris facile, cette décision-là. Il a pas pris la plus simple à vivre. Pour ça, là, sincèrement, il y a tout mon respect. Puis en plus, pour les fans des Islanders, ben, puis c'est un petit peu ce que je mentionnais sur les réseaux sociaux, c'est si vous êtes des fans des Islanders, ne critiquez pas John Tavares. Critiquez la direction, en fait, Gartneau particulièrement, pour toutes ces années-là de mauvaise gestion. John Tavares a fait amende honorable, plus qu'honorable, pour cette organisation-là. Il a sacrifié des excellentes années de hockey qu'il avait à offrir pour un club qui allait nulle part. Sincèrement, là, il avait le droit de signer ailleurs. C'était dans son droit. Et puis ça aussi, je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux. John Tavares, Gartneau aurait dû l'échanger la date limite des transactions, même si c'était une décision qui était impopulaire chez le public. À ce moment-là, au moins, il y aurait eu un retour sur l'investissement. Tandis que là, ils n'ont absolument rien. Tu perds le meilleur joueur, puis en plus, tu ne reçois rien. C'est vraiment désastreux pour l'organisation des Islanders. Heureusement qu'ils ont gagné le draft. Ça n'aurait pas été une très, très bonne semaine pour cette organisation-là.
Ah non, c'était pas non une chance, parce que c'était pas... c'était pas... C'est pas leur semaine la plus glorieuse.
Ah, moi, ce que j'aime le plus de la ceinture de Tavares, c'est qu'il a signé avec mon club, Toronto. Ça, c'est merveilleux.
Ouais, t'es un esprit de paria, toi.
Ah, arrête-moi ça. J'aime les deux. Pour vrai, ça, je suis content. Puis, tu sais, c'est beaucoup, 11 millions, on va se le dire. Mais en même temps, c'est 11 millions, un club qui est sur le bord de gagner.
Ouais,
c'est pas comme un 11 millions à Montréal où on est vraiment pas sur le bord de gagner.
Puis, ça a l'air niaiseux, là. Oui, eux autres sont le seul club dans toute la bunch qui a fait des offres qui dépensent réellement le cash, mais reste qu'il a signé à rabais versus les 13 puis 12 millions qu'il y a eu comme offre, comme Sylvain disait tantôt. Là. Il a laissé de l'argent à la table.
Oui, non, mais ça, c'est une bonne affaire, vraiment, parce que ça, c'est. Tu vois aussi que le gars veut aller là, il veut gagner là. Puis tu sais, présentement, là, moi, ce que je pense qu'il manque à Toronto, c'est un défenseur. Mais avec un Tavares dans l'équipe, puis les jeunes que tu seras peut-être pas capable de signer, ou même encore là, ceux qui sont signés, ou peu importe, Kyle Dubas, là, il y a de la munition en ce moment pour aller se chercher un bon défenseur pour aider Gardiner ou Morgan Riley. Tu sais, je veux dire, il y a de l'espace, parce que là, bientôt, dans pas long, l'espace salarial va en avoir un peu moins. Là. Il y a Nylander aussi, il y a Mitch Marner, tu as Austin Matthews. C'est probablement une possibilité de 30 millions là-dedans environ. Là.
Ouais. L'avantage.
Il y en a deux là-dessus qui sont. Mais il y en a un entre Marner et Nylander qui s'en va, c'est sûr.
C'est ça. Ouais. Il n'y aura pas le choix de manager pour d'autres choses. Je partais vous dire, l'avantage, c'est que Patrick Marleau débarque, mais c'est pas vrai, il reste une autre saison. Moi, je pense que réellement, là, dans le lot, c'est ce contrat-là qui va faire mal. Et t'as encore Nathan Horton qui compte sur la masse salariale pour 5,3 cette année et l'année prochaine. Je pense que le Canadien de Montréal devrait aller chercher ce contrat-là en retour de peut-être l'un des jeunes joueurs. Il y a peut-être de quoi tricoter là, pour maximiser encore une fois là, l'espace que le Canadien a sous le plafond salarial. Et la fenêtre d'opportunité pour les Leafs, ce que ça montre, c'est que c'est pas mal cette année. Là, parce que Matthews ne demandera pas en bas de 11 millions. On vient de savoir son salaire. Là, les deux vont coûter 11.
Ouais, c'est logique. C'est très, très logique. Ouais.
Ça serait très surprenant que lui se laisse offrir un contrat moins alléchant que John Tavares.
Imaginez, là, je lâche ça comme ça. Jordan Subban a signé là, avec Toronto. C'est pas une signature très, très majeure. Là. Mais imagine que Carl Dubas s'appelle à Nashville puis qu'il donne un de ses jeunes, Marner ou Nylander, moi je pense que c'est plus Nylander, là, et qu'il va chercher un certain P.K. Subban.
Ouais, mais là, tu veux échanger un de ces gars-là pour te faire de la place, puis tu vas te chercher un contrat plus gros que tu vas signer avec ces deux gars-là.
Ben, tu peux peut-être lui demander de garder une partie du salaire. Un Subban à 7 millions.
Ouais, une partie du salaire, je pense que tu peux le faire. Ça peut être intriguant ou intéressant pour une ou deux saisons en étirant bien ben fort 3, mais pas pour la durée d'un contrat à la manière de Subban. Là. Ça veut dire que tu payes longtemps pour qu'un joueur vienne te nuire. Là.
Ouais, c'est sûr.
Je serais vraiment surpris. Là. C'est un beau scénario de fan, mon Jerry.
Oui, mais ça, j'aimerais ça que Subban atterrisse à Toronto. Ça serait cool. Là.
Mais ça se pourrait. Là. Puis lui aussi, là, c'est son club d'enfance. Ça se pourrait. Mais je pense pas que ça soit pour ce genre de joueur-là qui, de toute façon, va te coûter moins cher. Là. Je serais surpris. Je serais très, très surpris.
T'sais, moi, j'ai beaucoup entendu là, depuis hier fin de semaine, t'sais, qu'est-ce que Matthews pense de la signature de Tavares et tout. Là. Moi, je pense que Matthews doit être content parce que il aura plus toute l'attention sur lui. Ça va y faire de l'espace à la glace aussi. Parce que là, tu vas envoyer tes meilleurs éléments défensifs contre qui, là? Ça va être dur de jouer contre Toronto. Oh, là.
Oui, c'est sûr.
Avez-vous pensé que ta ligne de centre, là, tes trois premiers, c'est Tavares, Matthews et Kadri? Fatigant, ça. Mm-hmm. C'est fatigant, là. Tu sais, quand tu penses que le troisième centre de là-bas serait premier centre à Montréal puis dans quelques autres équipes, là.
Ça fait penser un petit peu aux Pingouins qui ont gagné il y a 2 ans la Coupe avec une défensive très ordinaire, mais avec un 1-2-3 punch à l'attaque très intéressant. Ça vient rechercher un peu cette même formule-là.
Ce qui est cool, en plus, c'est qu'ils ont trois centres qui sont très responsables dans les deux sens de la patinoire. Mm-hmm. Et en plus, tu sais, quand Matthews, c'est un premier centre, Tavares, c'est un premier centre, Kadri, c'est un deuxième gros max, mais encore là, c'est solide, là, je veux dire. Puis nous autres, ben, on a Dano, Plekanec.
arrête, ça fait mal.
Oui, non, mais c'est vrai pareil.
Mais tu sais, la ligne de centre des Leafs, là, on va s'entendre que si c'est pas la meilleure de la ligue, c'est dans le top 3.
Ouais, facile.
Parce que la seule autre qui peut être à peu près équitable, on va parler de Pittsburgh.
Ouais.
Avec Crosby, Malkin, puis Brassard.
Puis les Oilers.
Ouais, mais non.
De McDavid, Draisaitl.
Ouais, mais Draisaitl joue pas au centre.
Non, c'est ça.
Ah, ouais.
Fait que tu as Draisaitl, t'as RNH, puis t'as Kajula qui joue sur la troisième ligne au centre, de temps en temps. Fait que tu sais. Non, c'est ça. Trois aussi gros, là. T'as mais Pittsburgh.
Je te dirais San Jose qui serait peut-être le plus proche après ça, là.
Ouais. Ouais, mais t'sais, le top 2, c'est vraiment Pittsburgh.
Oh, et clairement.
Puis tu sais, je saurais pas te dire lequel, mais t'sais, j'ai un penchant pour Toronto parce qu'ils sont plus jeunes et peut-être moins abîmés. Parce que Crosby et Malkin, t'sais, Crosby est à une commotion près que ça soit fini. Malkin manque plusieurs matchs par année, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est ça.
Si on veut continuer d'avancer, j'ai trois autres signatures que je qualifie de bonnes. Une un petit peu moins, là, je vais y aller dans l'ordre là, du meilleur au moins bon. Là. John Carson, 8 ans pour 64 millions, donc 8 millions par année. Avoir le contrat de Doughty. Je le sais que Doughty est meilleur défensivement, mais reste que il n'y a pas un Carlos Neu de différence en termes de salaire entre les deux gars. Et de performance. Donc, je trouve que c'est une excellente signature pour Washington. Ensuite, David Perron à Saint-Louis, de retour pour la quatrième fois. Puis là, le chiffre magique, c'est vraiment 4. Hein. C'est 4 millions par année pendant 4 ans pour un total de 16. Pour un gars qui a fait presque un point par match, je trouve que c'est de quoi d'extrêmement raisonnable comme salaire. Même en termes de durée, ça fait beaucoup de sens. Il aurait pu, je pense, aller chercher plus de cash ailleurs, mais je pense que la ville a eu son importance dans cette signature-là. Et l'autre, que je dirais que c'est plus moyen, puis ça sera défendable, mais James Van Riemsdyk qui s'en va à Philadelphie, contrat de 5 ans, 35 millions, 7 millions par année. Je fais l'analyse en ce sens que je trouve que c'est une bonne signature parce que, exemple, Ailey a signé Kowalczyk pour 6,25 et tu n'as aucune idée s'il va être en mesure d'égaler les performances de Van Riemsdyk. Tu as 750 000 de différence entre les deux et tu n'as aucune garantie du côté de Kowalczyk, qui est plus âgé aussi. T'as un Pacioretty qui est à re-signer éventuellement et qui ira certainement chercher, si c'est pas 8, peut-être même 8,5, voire 9 en termes de salaire. Et pour moi, la différence est pas si énorme que ça de ce que peut offrir JVR et Max Pacioretty. Donc pour moi, en plus qu'il avait le choix des partenaires de danse, je considère que c'est une bonne signature pour Philadelphie. Est-ce que c'était vraiment ça leur besoin et non pas un défenseur? Tout à fait, mais reste que le salaire, les montants et le nombre d'années fait du sens selon moi. Donc ça serait mes trois autres bonnes signatures. Vos commentaires, les hommes.
Ben moi, il y en a une que pour moi, tu as oublié, puis même si elle me fait vraiment chier cette signature-là. En tant que fan des Oilers, moi, voir James Neal s'en aller à Calgary, ça me fait chier royalement.
Je l'ai dans mes mauvaises signatures. Mais débattons, on peut débattre.
Ouais. Ouais, c'est. Écoute, moi, je pense qu'il va être à sa place. Tu sais, avec Gaudreau, ça peut être dangereux. Moi, j'aime bien James Neal. Ça me fait vraiment chier parce que je vais l'avoir d'en face 6 fois par année, là. Ça m'écœure vraiment, mais écoute, sinon, tu sais, JBR, moi, j'aurais interchangé Neil et JBR. Je trouve que c'est beaucoup de cash pour un gars qui a, tu sais, là, il a eu une saison de 36 goals, là, mais il y a quoi, il y a 14 passes, 16 passes, tu sais. JBR, c'est toujours ça, là, c'est rare qu'il y a 20 passes, là.
Ouais.
Il y a toujours une moyenne de 25 buts à peu près, mais c'est tout le temps 16, 17, 18 à 6.
Mais je base l'analyse sur les comparables et à ce nombre de buts-là, des joueurs qu'on pense être équivalents en termes de production de buts vont aller chercher un meilleur salaire. Donc, je l'ai calculé comme ça. Pour moi, Neil, avec ses 44 points, 30 ans, moins 11 dans un club qui a fini premier de sa division, je considère que c'est une sous-performance et surtout d'aller chercher 5 ans, c'est presque 6 millions en salaire. Je pense sincèrement que c'est le genre de contrat que l'organisation des Flames va regretter, un peu comme les contrats que, exemple, les Bruins ont fait signer à, c'est quoi son nom déjà?
Backus.
Et t'as les Islanders qui avaient fait signer aussi un contrat à l'ancien à Andrew Ladd.
Andrew Ladd, ouais.
C'est le genre de montant, c'est le genre de joueur là, à ce moment-là de leur carrière qui viennent signer Andrew Ladd 5,5 pendant 6 ans. Il avait 31 ans quand il a signé. Déjà, c'est un mauvais contrat. Je serais pas surpris que ça soit le même genre de. Il est rendu du mauvais côté de la pente. Et que Neil soit une déception avec les Flames.
Mais tu sais, je souhaite de tout cœur que tu aies raison.
Effectivement.
Tu sais, en tant que fan des Oilers, je souhaite de tout cœur que tu aies raison.
Mais moi, je suis quand même d'accord avec Sylvain sur. Moi, tout, j'avais mis James Neal dans mes bonnes signatures parce que il y a peut-être juste le facteur 5 ans là, que je trouvais qui était peut-être un petit peu agaçant. Mais il s'en vient en renfort à Calgary qui, moi, je pense, manque pas grand-chose. En plus, qui ont été cherchés par voie de transaction Noah Hanifin. Tu sais, ça, faut pas l'oublier. C'est un très bon ajout à Calgary. C'est sûr que bon, ce sont des parties de deux Gamilton. C'est un pour un. Mais tu sais, ils ont été chercher Elias Lindholm aussi, qui est un autre très jeune joueur. Tu sais, j'ai vraiment le feeling que James Neal s'est rajouté en renfort, puis pas nécessairement comme un sauveur. Tu sais, comme tu dis, Gaudreau, tu sais, il y en a une couple de bons joueurs qui vont comme aider James Neal à s'intégrer, puis probablement avoir une meilleure. Moi, je pense qu'il va avoir une meilleure saison l'année prochaine qu'il n'a eu une avec Vegas.
Moi, je suis convaincu aussi, puis c'est parce que dans cet échange-là de Noah Hanifin et Dougie Hamilton, tout, on parle beaucoup justement de Lindholm, mais celui qu'on parle jamais, c'est Mikael Ferland, qui s'est en allé avec Dougie Hamilton. Ferland, là, il jouait avec Gaudreau. C'est un fatigant, c'est une plaie. Puis James Neal, on l'oublie, là, parce que tu sais, les gens voient que c'est un marqueur de but, là, mais c'est dur de jouer contre James Neal.
Ouais.
Il est tough, James Neal. T'sais? Puis je pense qu'il va prendre un peu le rôle de fatigant que Ferland avait pour aller avec Gaudreau, justement. Puis si la chimie est là, ça peut être très, très bien. Là.
C'est pas Kachuk qui a ce rôle-là d'être fatigant dans le club. Il me semble qu'il y a beaucoup de fatigants.
Non, mais Kachuk, lui, il a le rôle d'être jaune.
Effectivement. Mais
quand même ton père, après que ton frère vient de se faire drafter, quand ton père dit « Je suis content qu'il joue dans l'Est, comme ça, j'aurais pas donné de warning à son frère.
»
C'est parce que ta réputation est faite. Quand même ton père le sait que t'es un jaune, c'est parce que t'en es un beau, là.
Ouais. Puis j'avais aussi mis JVR dans mes mauvaises signatures. Parce qu'il est en pente descendante. 7 millions, c'est cher en Boswell, là, je m'excuse. Là.
C'est pas le contraire, c'est le comparable.
Pente descendante parce que techniquement, il a eu sa meilleure saison en carrière. Sauf.
L'année passée?
Ben, il a eu 36 buts, 54 points. Tu sais, c'est comme une de. C'est sa saison où est-ce qu'il a marqué le plus de buts.
Ouais, mais quand même, je veux dire. Ouais, je sais pas.
Mais je suis d'accord que il ne réagit. Je vois pas comment. À moins qu'il y ait une chimie de fou avec Couturier ou avec Giroux, là.
Ouais, c'est ça.
Ils sont comme pas mauvais, mais tu sais, JVR, il a été drafté par Philadelphie, mais il chute dans le moule à Philadelphie.
Oh oui. Mais c'est ça, c'est vraiment une question de comparable. Tant qu'à prendre un guess sur Kubalchuk à 6,25, je préfère le guess sur Van Rimzak. Mais je pourrais me tromper. Dans mes autres mauvaises signatures, ben là, j'avais Neil. J'ai Calvin DeHaan qui a signé en Caroline
à
4 ans, 18,2 millions pour 4,55 par année. Ça n'a pas de Christy de bon sens, cette signature-là. Écoute, j'en reviens pas. Ensuite, Matt Calvert avec le Colorado signe 3 ans, 8,4 millions au total. On parle de 2,8. C'est pas un gros montant, là, mais Matt Calvert, là, sincèrement, là, c'est ordinaire en pas pour rire. Je vais juste sortir sa fiche, donnez-moi une petite seconde. Là.
Hey, Colorado, là, ils viennent de prendre 8 millions et de les crisser au vidange avec lui et Ian Cole. Là.
Ouais.
Ah ouais.
Je pense que c'est les deux pires contrats qui ont été signés, c'est dégueulasse.
Ouais. On parle là, de Matt Calvert, là. Il y a 3 saisons dans la Ligue nationale qui est d'un plus. +1, +1, puis à sa première saison qui était à +3. L'an passé, -10. Ça n'a pas de bon sens. Sincèrement, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Grabner en Arizona, 3 ans à 3,35 par année. Grabner qui fait rien depuis plusieurs années. Là, patine vite, pis c'est pas mal tout. Je mettrais Roussel aussi là-dedans. 4 ans, ouais. 3 millions
mais
par
oui,
année.
Ça
n'a
pas de rapport.
Ça, là, c'est une signature de contrat à la... celui qui vient d'être acheté à Ottawa. Là. Hey, j'ai
Burroughs.
Oui, Burroughs. C'est exactement le même type de contrat. Je ne serais même pas surpris qu'il ait donné une clause de non-échange dans le contrat comme Burroughs avait eu avec Ottawa. Ça n'a pas de bon sens. Ce genre de joueur-là d'énergie ne devrait pas avoir ce genre de salaire-là.
Puis tu sais, le pire, c'est que Burroughs avait des meilleures mains que Roussel. Là.
Ben oui.
Tu sais, Burroughs a déjà été un joueur, il a déjà été capable de suivre sa ligne avec les Sedin.
Ouais.
Ouais.
C'était pas nécessairement un mauvais joueur de hockey. Okay. Puis Antoine Roussel, c'est un third liner au best.
Là. Antoine Roussel a bel et bien une clause à son contrat. On parle d'une clause modifiée une no trade clause. Pour la saison 2018-2019, il peut soumettre une liste de 15 clubs à laquelle il ne veut pas être transigé. Ensuite, saison 2019-2020 et 2020-2021, donc la deuxième année de son contrat, il peut se donner une liste de 8 clubs à laquelle il ne veut pas être transigé. Et la dernière année de son contrat, on parle d'une liste de 5 clubs à laquelle il ne veut pas être transigé. C'est pas... La première année, là, c'était un peu intense, la moitié des clubs. Là. C'est pas trop handicapant, mais reste que donner ce genre de clause-là à ce type de joueur-là, je ne comprends pas. Je peux pas comprendre que les DG de la Ligue nationale, qui sont l'élite dans leur domaine, sont 31 au monde à avoir ce genre de job-là et ils font ce genre d'erreur-là constamment. À chaque année, il y a des DG qui se tirent dans le pied en donnant des clauses, en donnant trop d'années et en donnant trop de salaires à des joueurs marginaux. J'en reviens pas.
En tout cas, moi, on m'a dit qu'il y a des agents qui méritent leur salaire en jeu du bois.
Tabarnak, ça n'a pas de bon
parce
sens.
Que quand tu réussis à sacrer un no trade clause dans la gorge du DG pour Antoine Roussel,
t'es fort.
Chris, je pense que je vais t'inviter, toi, pour venir négocier mon hypothèque à la banque.
Ensuite, vas-y, Jerry.
Ensuite, les comparables, là, tu vois, quand tu parles de Calvin Nahan, là, que moi, tout, je suis vraiment d'accord, là, signature de merde, Ian Cole, même affaire, là, c'est des contrats faramineux pour aucune raison. Puis t'as John Moore qui est signé à 2,75, qui est, à date, statistiquement parlant, meilleur que les deux qu'on vient de parler.
Ça va de bon sens.
Il est signé à 2,75.
Ouais. Ian Cole est dans ma liste, bien sûr. 3 ans, 4,25 millions par année. Des chiffres, c'est dans le domaine du ridicule. Et presque, là. Je load ça là, à l'instant, ça affiche. Là. Bon, tout le monde est sûr. OK, DB, ça s'affiche. Là. 7 points l'an passé. 20 points l'an passé. Il a joué pour deux clubs, 67 games. Un différentiel de plus 14. Ça n'explique en aucun cas ce genre de salaire-là.
Ce que Colorado a fait un job de le 1er juillet, il aurait été mieux de rien patcher. T'sais, ils sortent d'une pas pire saison. Ils ont des jeunes qui poussent. Pourquoi tu vas donner des contrats de merde de même? Hey, t'sais, il vient de pitcher. T'sais, c'est 8 millions par année sur ta masse que tu viens de crisser l'invidence.
C'est pas comme si ce gars-là va se... Sa meilleure saison, c'est 26 points l'an passé avec Pittsburgh, avec plus 26. Là. Mais avant ça, sa meilleure saison, c'était genre 13 points avant ça. Là. C'est n'importe quoi. J'en reviens tellement pas. Là. Ça me scie, genre, de voir ça.
Moi, c'est clair que moi, mon bonhomme va à Joe Sakic. Joe, il dégainait vite avec son wrister, mais je pense qu'il dégaine vite avec le crayon aussi. Puis il devrait prendre son temps.
Moi, là, quand je parle de comment on doit construire un club, là, le genre d'analyse que je fais sur la POC, là, je le fais toujours dans une optique. Là, je parle souvent de reconstruction et tout ça, là, de tankage. Je le fais dans l'optique de générer une formation qui va être compétitive pendant une période grande. On parle de 5 ans et plus où est-ce que l'organisation que j'espère mettre en place, si j'étais en poste, là, bien sûr, soit compétitive pour aller chercher la Coupe Stanley. Les DG de la Ligue nationale, puis je ne sais pas si c'est une question de... Il y avait eu des articles là, sur ce sujet-là, entre autres sur le site de Radio-Canada. Les entraîneurs ont tellement des plus gros salaires maintenant que ne sont pas... congédiables. C'est les DG maintenant qui sont plus sur la sellette. Leurs jobs sont moins garantis qu'auparavant. Ils font des moves de moyen et très court terme pour sauver leur job constamment. Et deuxième mot positif pour Marc Bergevin, là, s'il y a une affaire que je suis content de la date limite des transactions cette année et du marché des joueurs autonomes pour Marc Bergevin, c'est que il a continué, ou du moins il a entamé une série de décisions dont il risque même pas de voir les résultats. C'est même pas lui qui va bénéficier d'avoir pris les bonnes décisions parce qu'il a pris des décisions à long terme pour le bien de l'organisation. Joe Sakic, là, il a pris une décision à court terme en espérant générer une petite dose de succès, retourner en série, faire plus qu'une ronde. Il n'a pas fait des décisions en ayant en tête d'avoir une organisation qui va lui donner des chances de remporter une Coupe Stanley pendant 4-5 ans. C'est pas ça qu'il a fait, là. Et trop peu de DG prennent... En fait, trop de DG prennent des décisions dans cette optique-là de générer un semblant de performance positive, un semblant de qualité, au lieu de vraiment cibler, d'avoir des chances pour les grands honneurs sur une longue période de temps. Je trouve ça triste. Je suis pas émotif là, pour un club de la Ligue nationale. Là, s'ils perdent de l'argent, c'est bien eux autres les pires. Là, mais ça me fait capoter de voir que les meilleurs au monde tombe dans ce genre de panneau-là. T'es le PDG de Pepsi, là. Tu vas-tu faire comme « Ouais, on va mettre 300% plus de sucre parce que le goût va être meilleur tout d'un coup. » Ben non, tu feras pas ça parce que ton objectif, c'est d'en vendre pendant encore 100 ans des Pepsi. Fait que tu vas prendre des décisions qui seront peut-être pas populaires là, qui feront peut-être pas augmenter les ventes, mais qui vont permettre à ton organisation et à ta marque d'avoir une pérennité qui a de l'allure et continuer d'être profitable et d'exister à long terme. Dans le hockey, on fait exactement l'inverse. Oh, on va aller saupoudrer 300% plus de sucre dans notre organisation au cas que ça nous ferait gagner un match de plus de série l'année prochaine. Même si, à moyen puis à long terme, ça vient caler ton plancher salarial, ton cap space, même si ça vient prendre des places dans le roster pour des joueurs qui n'ont pas d'affaires là, même s'il y a mille et une raisons de ne pas le faire, ils le font quand même. C'est désolant. Dans mes autres signatures de marde, j'avais bien sûr celle de Mike Green avec Détroit. Il a signé une nouvelle entente, 2 ans, pour 10,75 millions, soit 5,375 par année. Ça demeure leur meilleur défenseur, mais ça demeure une marde. Je comprends pas.
C'est ridicule.
Et bien sûr, j'ai la signature de Paul Stachny à Vegas, 3 ans, 19,5 millions, 6,5 millions par année. Au moins, la durée n'est pas trop longue. Mais pour un gars qui était un troisième centre avec les Blues de Saint-Louis il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve ça très cher payé.
J'ai été surpris parce que, honnêtement, là, je pensais que ce serait plus d'années que ça et peut-être un peu plus d'argent que ça. Je dis pas que c'est une bonne signature, mais j'ai quand même été surpris.
Oui, ça aurait pu être pire.
Moi, je m'attendais à minimum 4 ans, 28 millions, là, tu sais, aux alentours de 7 millions par année. Mm-hmm. Fait que j'ai quand même été surpris de voir une année de moins puis un peu, tu sais, puis un demi-million de moins par année.
Ouais. On a dit beaucoup de bien de la formation des Knights de Vegas, mais l'air de rien, là, leurs trois joueurs les mieux payés en attaque sont Paul Stachny à 6,5, Thomas Tatar à 5,3 pour encore 3 ans les deux, et David Clarkson à 5,25 pour encore 2 ans. Quand ton top 3 de tes salariés en attaque sont pas ton top 3 des meilleurs joueurs, il me semble, pour moi, que ce n'est pas une bonne gestion.
Non.
Je suis peut-être dans le champ, là. Mais il me semble que c'est pas une bonne gestion.
Mais tu sais, nous autres, on parle de salaire et de grosses signatures et tout. Puis là, je me dis, tu sais, le Canadien, là, en ce moment, là, je pense, en gros max, là, ils ont dépensé peut-être 5 millions, 6 gros max pour environ 6 joueurs.
Mm-hmm.
Ce qui est pas beaucoup. Ça règle pas les problèmes immédiats, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut pour le moment. S'il aurait signé, mettons que les gros joueurs là, qui sortaient le plus dans les rumeurs, t'avais Antoine Roussel, mets 3 millions. T'avais Calvin Dehaene, qu'on voulait, à Montréal. C'était un nom qui était très posé parce que c'était un défenseur, puis blablabla. 4,55 millions. Tout le monde voulait Paul Stastny. Ça, c'est 6,5 millions. Si tu fais le calcul, là, t'es rendu facile à 14 millions avec ces trois joueurs-là. Mm-hmm. Fait que là, ouais, pour... avec ces trois, ben c'est ça, puis avec ces trois joueurs-là, là, tout le lousse que t'as sur la masse salariale, ben, il disparaît.
Mm-hmm. Puis ça te donne combien de victoires de plus ça, au bout de l'année?
Trois, beaucoup. Peut-être. Trois.
Ça, mettons cinq ou dix de plus. Là.
Ça, ça l'aidera pas le Canadien dans trois ans.
Ben, tu te bats pour faire les playoffs une année. C'est tout, là. Puis l'année d'après, c'est tout à recommencer parce que finalement, tu te rends compte que c'est peut-être pas des bonnes signatures.
Ben, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, moi, je me dis, j'aime mieux avoir cet argent-là de lousse encore une année, perdre, repêcher encore dans le top 3 ou top 5 ou top 10, peu importe, puis avoir encore plus de chances. Hey, on a encore plein de jeunes dans les nationales qui vont peut-être être disponibles. Je pense que le seul joueur que là, je donnerais une chance, puis c'est un guess, c'est Anthony Duclair. Pis c'est même pas parce qu'il est Québécois. Là. C'est juste parce que ce gars-là, je pense qu'il a encore du talent qui peut être poussé. Feeling que l'attitude ne fait pas avec Marc Bergevin, mais quand même, tu sais, je veux
dire... Ça marcherait pas à Montréal.
Je ne penserais pas non plus. Mais tu sais, il connaît Domi, il connaît
Drouin. Mais c'est un guess que tu peux offrir un contrat autour $1 million qui te fait pas mal et qui peut-être peut rapporter. C'est un...
Non, mais d'après moi, c'est parce qu'il veut plus que ça. S'il n'est pas encore signé, là, d'après moi, c'est parce qu'il veut plus que ça.
Ouais, mais peut-être c'est le genre peut-être que le 10-12 juillet, il va faire comme, ouais, ça me prendrait peut-être un contrat. Hein? Je préférerais garantir NHL que pas. Hein?
C'est ça.
Ouais.
Moi, je peux donner un guess de 2 ans. Mm-hmm.
Hey, puis tu sais, quand tu parles de garantie à NHL, là, tu sais, ça a comme passé vite, là, mais c'est-tu pas à Pekka que.
Oui, il est garanti.
Bergevin, ouais, tu sais, un one-way garanti. Quand je l'ai vu partir, je me suis dit, OK, t'aurais eu 100%, Marc, mais là, tu donnes un. Tu sais, il s'encombre encore d'un autre style de contrat de même. Hein.
Ouais, okay. Mais s'il peut tasser de la rose.
Il est à 5 et 8. T'sais, on parle déjà d'une organisation qui est petite. Là. J'espère qu'il patine comme le vent parce que ça risque d'être problématique, cette affaire-là.
Oui, en effet.
Ouais. Ce que je voulais rajouter là, par rapport à l'état de situation chez le Canadien de Montréal, il reste trois joueurs à signer. On a parlé de Armia tantôt, qui est à 25 ans, qui est RFA. On a Philippe Dano, qui est RFA, et on a Jacob Delarose. Moi, je suis pas convaincu que Delarose devrait avoir une chance avec le Canadien de Montréal. Il y a déjà congestion au poste de centre pour les mauvais joueurs de centre. On est déjà en masse.
Ben, c'est ça, ça fait drôle de dire qu'il y a congestion pour les joueurs de centre à Montréal quand dans le fond, c'est pas ça.
C'est parce qu'on a trop de mauvais. C'est les bons qui manquent. Mais ça, il y a pas de congestion de ce bord-là. Fait que, tu sais, il y a Dano et Armia qui faut signer. C'est pas mal tout. Et le Canadien, à l'heure où est-ce qu'on se parle, là, on parle de 13 millions disponibles sur la masse salariale. C'est le temps de faire des échanges pour racheter des contrats, des choses comme ça, qui permettraient d'aller chercher des prospects de manière détournée au lieu de devoir passer nécessairement par le repêchage. Le Canadien a largement l'espace pour le faire. Et là, les fans, puis je considère que ceux qui nous écoutent ont pas besoin que je leur dise ça, là, qui sont déjà convaincus. Là, je prêche à des convaincus. Mais quand les médias québécois vont vous dire « Oui, mais là, le Canadien, ça n'a pas de bon sens. Là, il reste 13 millions sur la masse salariale. Le Canadien ne peut pas ne pas dépenser ce montant-là. » Parce qu'on s'est fait dire ça toute l'année passée. « Il reste 8 millions. Il faut que le Canadien vienne accoter le plafond salarial. » Non. Non, 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 c'est une excellente nouvelle que le Canadien n'accote pas le plafond. Pourquoi? Parce que de ne pas faire les playoffs, c'est à peu près, c'est quoi, c'est 4 millions par ronde de profit. Pour toutes les rondes que le Canadien ne fait pas, ça revient pas mal à ça, 13 millions. Fait que Molson est correct dans son cash de ne pas faire les playoffs cette année. Il sauve déjà 12 millions sur le plafond. C'est correct, laissez ça de même. Financièrement, ça balance, puis ça nous permet d'avoir un bon choix et de mieux remonter éventuellement.
Ouais, j'espère que. Mais tu sais, justement, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il faut que Montréal se serve de cet espace-là pour faire des moves à la Trevainen, à aspirer des gros contrats pour faire de la place. Puis, tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment, là, la grosse rumeur, là, c'est que Carlson s'en irait à Dallas.
Ouais.
Mais pour que tu acceptes Carlson, il faut que tu acceptes Bobby Ryan. Ça a l'air qu'il fait partie de... Tu n'as pas le choix. Si tu as Rick Carlson, il faut que tu te ramasses Bobby Ryan. Du côté des Stars, si cet échange-là se fait, là, il se retrouve avec à peu près 5 millions over. Il y a un contrat qui est Marc Bergevin, je serais comme, OK, je vais le prendre, puis envoyez-moi un jeune, j'irai chercher Spezza avec un bon jeune prospect. Spezza, il reste un an à quelque chose comme 8 millions.
Ouais, parce que Bobby Ryan, il est pas rachetable. Là, je viens de faire le test. Ça implique que tu dois étendre son salaire sur 7 saisons de temps. On parle de 1,83 million de dollars à payer à chaque année pour un total de 14,66. Et grosso modo, là, t'économises 7,3 millions de dollars là, dans tout ça. Là. Ça fait pas de sens. Là. Tu peux pas le racheter en ce moment, il reste trop d'années. Là.
Puis en même temps aussi, Bobby Ryan, il est pas mauvais. Mais Bobby Ryan à Ottawa, il fera pas la même chose qu'il va faire à Dallas.
Non, Bobby Ryan est mauvais.
Il y a
mauvais.
Des bonnes chances.
Moi, j'ai give up sur ce joueur-là. Là. Bobby Ryan est mauvais. 33 points en 62 matchs, moins 12. Faudrait qu'il y ait un salaire.
Ouais, Bobby Ryan, ça reste un gars qui peut t'en mettre 20 dedans. Là.
Moi, je pense que Bobby Ryan...
Est-ce qu'il est surpayé? Oui.
Ah oui,
mais
sûr.
Oui, le move serait meilleur. À, il serait probablement plus rentable à Dallas, tu sais. Mais c'est justement c'est là qu'il faudrait que Marc Bergevin cogne au bureau de Jeff Molson et qu'il dise, regarde, on va repitcher des millions en l'air encore. Puis à la limite, ben gars, tu l'auras ton premier joueur de centre, là, tu feras jouer Spezza avec, pis tu vas donner de l'espace à Drouin qui sera pas obligé de jouer comme premier centre. Mm-hmm.
Ben non, il va jouer comme deuxième centre.
Ben non, dans le pire des cas, ça va être soit Dano ou Tomáš qui va jouer là. Puis tu sais, rendu là, on s'en crisse, tu sais.
Mais moi, j'aurais peur.
Je joue pas au centre.
Moi, j'aurais peur. T'amènes Spezza à Montréal, commence à devenir populaire, fin de carrière, il va leur signer encore pour 3 ans après, puis il va lui donner 7 millions par année.
Je suis en train de regarder
mais
le contrat.
Je pense pas que Spezza serait aussi gourmand, là, ici, où est-ce qu'il est rendu
ben
dans
oui,
la vie,
oui.
Ici,
ouais. Je suis en train de regarder le contrat de Bobby Ryan, puis il peut se mettre une liste de 10 clubs à laquelle il ne veut pas être échangé. En plus d'avoir un contrat de marde,
ouais,
il contrôle le tiers de sa destinée. Là. Ah, c'est que ça me fait chier. Crise de DG de marde.
Ouais, mais en même temps, Ryan, il n'est pas con. Je pense pas qu'il dise non à Dallas. Là.
Tu penses? Parce qu'on a déjà vu ça à Ottawa, des joueurs un peu cons. Là.
Oui.
Allô, Dion Faness.
Ouais, Dion Faness a déjà refusé d'être disponible pour le draft d'expansion à Vegas. Il doit-tu le regretter? Saison de marde à Ottawa, fini par se faire échanger, puis finalement, le club qui l'aurait ramassé s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Hey, l'épais, puis en plus, ben, tous les autres membres de l'organisation qui doivent se dire, ouais, ce style-là vient de nous coûter. C'était qui l'autre défenseur? C'était Méthode?
Ouais.
Tu sais,
ouais.
Vient de nous coûter Méthode, puis on a une saison de marde, entre autres par manque de talent.
Mais en fait, si tu veux pousser plus loin que ça, là, Dion Phaneuf est en train aussi de te coûter Erik Karlsson. Parce que Karlsson a perdu son body puis il s'est fait chier. Oui, il y a eu l'histoire avec Hoffman, là, mais là, techniquement, ça s'est réglé, là, à moins qu'il y ait d'autres choses qui a tramé puis que, tu sais, parce que le cancer a l'air d'être présent dans ce vestiaire-là, ça a l'air assez terrible, là, mais tu sais, en bout de ligne, là, Dion Phaneuf pourrait t'avoir même coûté à la limite Erik Karlsson. Parce qu'il a perdu.
Oh oui.
Il a perdu le gars qui lui permettait de prendre plus de chance, tu sais.
Ouais, mais Mark Method, il est où, là, en ce moment? À Dallas.
Exact. Puis
voilà.
C'est pas anodin que les rumeurs parlent de Dallas.
C'est clair que, tu sais, 1 plus 1 égale 2.
Ça, puis l'impôt. Mais bon, ça, c'est en dehors de notre contrôle.
Ouais, mais l'impôt, là, ça. Ça, c'est une autre chose. Là, si je peux me permettre, là, 2 secondes, OK? Parce que ça, c'est mon domaine. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille en payroll. OK? Je suis pas comptable, mais je travaille en payroll. Fait que je connais tout ça, là. Puis, dites-vous que ces gars-là sont tous incorporés.
Oui.
OK? Donc, ce sont des entreprises. Puis, ils ont des comptables créatifs,
mm-hmm,
qui font que probablement, là, qui paye à peu près rien en
ouais. En fait, je vais y aller. Je vais prendre la POC. Je vais manger la POC un petit peu. Là. Je sais que tu me fais pas une passe, là, mais il y a un article sur The Athletics que Marc-Antoine Godin a écrit qui était justement sur cette thématique-là avec des experts en comptabilité. Il y a entre autres une possibilité au Québec de délayer dans le fond, dans le futur, ton salaire pour la retraite. Et à ce moment-là, ton taux d'imposition, comme ton salaire est plus bas, ta braquette d'imposition est plus basse. C'est entre autres le cas là, pour les joueurs qui viennent d'un autre pays, qui viennent jouer au Canada et particulièrement au Québec. Donc, le taux d'imposition revient pratiquement au même qu'ailleurs. Et en plus, puis ça, je l'ai déjà expliqué sur le show, c'est que le salaire est comptabilisé et imposé selon le lieu de performance. C'est considéré comme l'équivalent d'un spectacle là, hockey. Les clauses Canada-États-Unis fonctionnent comme ça. Donc, le rapport d'impôt d'un joueur de hockey doit considérer chacune des villes, chacune des joutes où est-ce que le joueur a performé pour être imposé selon la ville où est-ce que la performance a eu lieu. Ce qui veut dire qu'un joueur va avoir dans une saison 41 matchs à domicile, donc ça sera quand même la majorité de son impôt qui sera calculé, mettons, au Québec pour un joueur du Canadien, mais il y a 41 autres matchs qui vont être imposé selon les tarifs des différents endroits. Et en plus, même si un État, admettons, a un taux d'imposition bas, tu as des villes dans lesquelles il y a des tarifs qui sont imposés pour les performances. Il y a un impôt particulier à des villes, à certains endroits aux États-Unis. Donc, tout ça fait en sorte que, grosso modo, tu as 41 matchs dans l'année où est-ce que pas mal tous les joueurs sont imposés de la même façon dans la ligue. Il y a des lieux, là, des divisions où est-ce que c'est quand même plus avantageux, mais reste que ça vient se moyenner de façon assez globale, égale à travers la ligue. Tu as des endroits où est-ce qu'il y a zéro impôt, là, genre Dallas, pour les 41 matchs, là, mais même à ça, ça revient pas tant que ça, si différent que ça d'un endroit à l'autre.
Ah! En fait, depuis l'année dernière, là, l'endroit où est-ce que excusez-moi, où est-ce que t'es le moins taxé, c'est Vegas parce que t'as aucune state tax, t'as aucune taxe dans l'État où est-ce que t'es, parce que tout est rentabilisé par les casinos et tout.
Ouais.
Et t'as cette fameuse taxe-là que tu parlais pour les performances, parce que Vegas ne marche qu'avec ça, avec tous les spectacles en résidence.
Mais oui,
et
c'est
tout.
Bien plus payant ça, là.
Ben c'est ça. Donc c'est pour ça que les gens qui sont aux États-Unis, qui sont à Las Vegas, ne payent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, là, je sais qu'on switch un petit peu là, mais c'est une des raisons pour lesquelles que la majorité des pilotes de NASCAR ont leur lieu de résidence à Las Vegas.
Ouais, puis en plus, eux autres...
Alex Tagliani a sa résidence à Las Vegas pour cette raison-là.
Ouais, c'est ça. Puis leurs performances, à part une course, sont toutes ailleurs. Fait qu'ils n'ont pas d'imposition sur le spectacle, eux autres, dans ce domaine-là. Là.
Exactement.
À part une fois. Donc, tout ça pour dire que la différence par l'imposition, là, par les taxes, c'est un mythe qu'on circule énormément. Je serais même pas surpris que l'organisation de Montréal, alors qu'elle n'était pas intéressante pour les UEFA, profitait de cette méconnaissance-là du public pour se simuler faire pardonner en mettant la faute sur les joueurs. Ben, vous savez, nous autres à Montréal, faut surpayer à cause de l'impôt et tout ça. Pour avoir de l'air moins pire. On a essayé, mais on n'est pas capable d'accoter le salaire. Oui, il y a une différence d'imposition, mais non, elle n'est pas si immense que ça. Elle n'est pas aussi insurmontable qu'on se l'imagine. C'est surtout plus que c'est un marché de marde. À cause des médias, à cause des partisans qui chiolent pour tout pis rien, on en fait un show hebdomadaire.
Bon, oui, là-dessus. Si t'es un gars qui s'occupe pas de tes affaires, ben là, ça peut avoir un impact.
Ouais.
Mais tu sais, la majorité de ces gars-là, justement, ils ont des agents pour les conseiller puis pour leur donner des bons conseillers financiers. Puis tu sais, fait que c'est même plus vraiment un. Tu sais, faut mettre un terme à ce mythe-là. Là.
Ouais. Puis le taux d'imposition provincial ou d'État du Québec est comparable là, du côté de la Californie. Donc, les joueurs de LA, San Jose, ça ressemble à ce qui se fait à Montréal en termes d'impôts de base là, pour les citoyens. Et ils n'ont pas de misère à attirer. Pourquoi? Ben parce que soleil, parce que conditions de vie, parce que tranquillité, parce que club compétitif. Ça joue beaucoup plus dans la balance que le chèque de paye.
parce que t'as pas 300 journalistes à te poser la même question de merde à toi, Games.
Exactement.
Ouais, mais tu sais, mettons, là, je pense que si Montréal serait une... Si Montréal là, serait sur le bord vraiment de gagner une Coupe cette année, mais vraiment, tu sais, genre, tu... ils ont le club de Toronto à Montréal, pas mal sûr que tous les agendés pourraient, genre, on veut aller gagner une Coupe à Montréal.
Ben oui.
C'est sûr, parce que c'est la, l'organisation, une des organisations les plus prestigieuses de tout sport confondu. Fait que c'est sûr que tu vas faire partie de cette histoire-là. Mais présentement, c'est zéro cas.
Mm-hmm. Je reviens un petit peu sur la situation. Tu sais, je donnais, tu sais, je soulevais la bonne performance de Marc Bergevin au marché des UFA. Mathias Brunet a fait une analyse un petit peu de ce travail-là, de le mot interdit, un super bon texte sur le travail de Marc Bergevin. Et un des points qu'il souligne et que je trouve extrêmement à propos, l'an passé, Marc Bergevin s'est brûlé les doigts en signant Carl Osner. C'est une signature qui fait extrêmement mal à l'organisation. Ça laisse des séquelles, ce genre de décision-là. L'année d'avant, Marc Bergevin, ou il y a peut-être 2 ans, visait Milan Lucic, proposait un contrat à un salaire meilleur que ce que les Oilers ont proposé. Et heureusement pour le Canadien, pas pour tes Oilers, Sylvain, il a décidé d'aller avec Edmonton. Tout ça pour dire qu'en très peu de temps, 2 gaffes majeures que Marc Bergevin aurait pu faire, ça doit aider à te tenir tranquille dans une situation où est-ce que tu as beaucoup de cash et très peu de perspectives positives pour ton club. Donc, beaucoup d'erreurs potentielles que tu préfères, ça doit aider à te garder les petites oreilles baissées puis te garder tranquille.
C'est sûr et certain.
Je voulais, en terminant, parler d'une nouveauté sur la POC. Nous avons créé, en fait, hier soir, j'ai créé un Patreon pour notre beau podcast. Un Patreon, c'est un endroit où est-ce que les amateurs de différents projets artistiques, que ce soit des podcasts, YouTube, des spectacles, des choses comme ça, peuvent aller participer financièrement aux projets qui les interpellent pour aider ces fameux projets-là à améliorer leurs conditions, pouvoir améliorer leur qualité d'offre de services. Et donc, nous avons... j'ai pris la décision d'ouvrir une plateforme. Je trouvais qu'on n'avait rien à perdre. Moi, je rêve, entre autres, de pouvoir faire jouer des extraits sonores dans le show. Je peux, moi, au montage, rajouter de l'audio, sauf que je peux pas le faire entendre à Sylvain puis à Jerry pendant qu'on enregistre. Et ça, j'aimerais bien, bien ça, être en mesure de faire ça pour pouvoir rajouter, parce que Dieu seul sait comment est-ce que les dirigeants du Canadien nous sortent des quotes succulentes, des analyses qui font ni queue ni tête, dont celle qu'on a vécue avec Sylvain, aide-moi là, là-dessus, Marc Bergevin qui a dit à un journaliste que le journaliste voyait...
En fait, Philippe Quentin a commencé, et puis je l'ai partagé sur notre page, Philippe Quentin, c'est un des seuls qui le challenge, là. Lui a posé une question, je me rappelle plus exactement c'est quoi la question, tu sais, mais justement, tu sais, à savoir, ça tournait tout alentour de, tu sais, pourquoi tu veux pas parler de reset, puis tu sais, dans le... Puis Marc Bergevin, lui a dit, ben regarde, tu sais, toi, tu préfères voir le verre à moitié plein, moi, c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est un beau lapsus.
Ouais, c'est ça.
J'aime mieux penser que, parce qu'il pense en anglais, il l'a comme inversé, là. Mais bref, ça faisait aucun sens. Donc lui, il est en train de dire que...
Il est pessimiste.
Lui, il est pessimiste puis qu'il aime mieux voir le verre à moitié vide pendant que l'autre le voyait à moitié plein.
Exact. Donc ce genre de quote-là, on le sait, là, nos dirigeants sont écœurants là-dessus avec le Canadien. J'aimerais pouvoir amener ça sur le show, mais ça prend de l'équipement supplémentaire par rapport à ce que j'ai moi en ce moment. C'est ce genre de truc-là que j'aimerais énormément pouvoir rajouter à l'émission. Qui sait aussi avoir la possibilité de rajouter des gens pour des entrevues par téléphone, de pouvoir faire des appels, des choses comme ça. Mais c'est du gear, puis du gear, ça coûte de l'argent. Un micro, esti, pour Jerry, on pourrait financer ça.
C'est super, mon micro, ça griche, puis ça sonne cacane, mais ça marche pareil, vous m'entendez?
Ben oui, mais ça pourrait être mieux. Donc,
puis JB pourrait avoir un soundboard pour ajouter des bruits de pète, des affaires.
Ben oui!
Imaginez comment que ça serait bon.
Ça serait magique. Alors, tous ces beaux projets-là, ça nous prend votre participation pour pouvoir les réaliser. D'ailleurs, on salue notre premier Patreon, Jean-Philippe Vandal. Les différentes catégories, là, j'ai essayé d'être humoristique dans tout ça, là. À 1$ par mois, vous êtes un Tom Payette. Ce qui veut dire que tu as le luxe de choisir la chanson qui va jouer à la fin d'un des épisodes et on va te nommer à la fin de chacun des shows. Deuxième perks, c'est pour...
Attends un peu, il va falloir qu'on nomme Jean-Philippe Vandal à chaque
show. Ben oui, à chaque show qu'il nous aide, on va le nommer. Là, je vais faire un truc préenregistré puis je vais faire passer ça là, de quoi de bien, bien funny. Là. Deuxième niveau, 2$ par mois. Vous êtes un Day-Louise. Ton support pour nous amener en playoff sera à jamais dans nos mémoires. Par contre, ça se peut qu'on ne te re-signe pas puis que tu finisses ta carrière à Philadelphie. Pour te remercier, bon, on va t'enregistrer un petit message personnalisé et on va nommer ton nom à la fin de chaque épisode. À 5$ par mois, on va... ben en fait, tu es un Jordy Ben. On t'aime bien, mais on préfère ton frère. Fait que c'est de même. Pour ton don, j'ai découvert un petit site sur lequel on peut créer des stickers. Donc, je préfère des stickers à l'effigie du logo de la POC pour que tu puisses mettre ça là, sur ton laptop, sur ton sac, ton étui d'iPhone, whatever. Donc,
ton chien.
Ton chien, n'importe quoi. Donc, on t'enverrait ça. Et aussi, on aimerait ton nom à la fin du show. Pour 25$, tu deviens notre George Paris. Et pourquoi George Paris? Ben parce que pour te remercier, ben on va te faire parvenir un t-shirt à l'effigie de la POC. Parce que George Paris a sa compagnie de t-shirts. Je trouvais que le lien était cœurant. Et la carrière de George Paris avec le Canadien de Montréal est tellement mémorable que je voulais faire vivre cette mémoire-là pour l'éternité. Et il y a un patron, le seul et l'unique, le Piqué Souben, pour $76. Ben on va t'offrir de venir enregistrer un show avec nous, toi, ce patron-là qui offre $76. 76, bien sûr, pour le numéro du jersey. Et la petite description, là, que je me suis trouvé bien drôle, va comme suit. Ça dit, c'est un méga don à nos yeux. Par contre, tu peux demander aux autres de ramasser le cash pour toi. Et malgré ça, tu vas recevoir tout le mérite pour l'argent donné. Donc, voilà, je trouvais que ça allait en pleine lignée avec le don de Piqué Souben pour l'hôpital pour enfants de Montréal. Parce que,
et ça, c'est $76 une fois ou par mois?
C'est par mois, mais c'est une seule personne qui peut l'avoir.
OK.
Mais tu sais, c'est plus pour le gag du chiffre puis du montant.
Je pense que peux-tu en rajouter un, moi?
Ben oui! Brainstormons ça live devant le public.
OK. Celui qui donne 100$ par mois.
Ouais.
OK.
Ouais.
Je me fais tatouer. J'aime Marc Bergevin sa fesse gauche.
Hé, hey, attends, là, il y a quelqu'un qui va te donner ça, d'après moi. Là.
Ouais, non. Mais,
100$ par mois, c'est un investissement. Là.
Ouais, mais tu sais, la personne, elle peut s'inscrire puis juste débarquer après un mois, là, ça lui a coûté 100$ de te faire tatouer.
Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est sûr qu'il va y avoir des astérisques puis il ben faut oui, que ça fasse ça. Au moins un acte. À ton 12e paiement, on va le faire.
OK, c'est bon. Écoute.
Je suis un gars de parole. À ton 12e paiement, je me fais tatouer. J'aime Marc Bergevin sur la fesse gauche.
Fallait en italien, le monde ne comprendra pas trop.
Ouais, c'est ça, ou en signe chinois. Là.
Ouais, mais tu sais, pour le nombre de monde qui vont me voir la fesse gauche, anyway.
Effectivement, j'avoue.
Ouais, j'avoue.
Donc, mais je pourrais prendre une photo puis vous la montrer.
Eh, ouais, oui, ça va prendre ça.
On va le filmer, anyway, pendant que je vais me le faire faire.
je souhaite tellement que ça arrive.
On pourra pas dire que je me donne pas pour la
gauche. Ben non, c'est sûr. Avant de terminer, on a une question du public. Christopher Pellerin qui nous demande si Marc Bergevin a une meilleure défensive cette année que celle de l'année passée.
Ben moi, on va dire oui.
Ouais, hein?
Pour la simple et unique raison que Mété et Yolson ont une année d'expérience en plus.
Oui, puis ça risque de...
Et qu'ils vont peut-être prendre la place à Halsner. Fait exact. Que tu sais, dans le fond, ça devient meilleur. Fait que t'as voulu faire ton comique, Christopher Pellerin?
Mais oui! OK, là!
Mais oui, la défensive de Marc Bergevin est meilleure cette année.
Toi, Jerry?
Ouais, mais probablement plus... la même affaire, c'est que les jeunes vont prendre plus de place, comme justement Mété et Youssoun, qui, j'espère, honnêtement, vont faire l'année au complet à Montréal.
Et peut-être Ouellet.
Ouais, ben Ouellet, moi, en fait, j'aimerais bien aussi. C'est une de mes bonnes signatures, mais tu sais, comme un bon guest. Là, je trouve que c'est... Tu vois.
Ça va la peine d'essayer.
C'est ça, au pire, à la fin de l'année, on va faire ben, un nice try, tu sais. je suis sûr que ça va marcher. Il rentre dans le top 6 en partant au grand entraînement. Là. C'est même pas une question.
T'sais, dans la Ligue nationale actuelle, là, c'est un des joueurs que j'ai vu le plus jouer junior, comme il a fait son junior à Blainville. C'est le gars que j'ai le plus vu jouer. Puis, ce gars-là, je sais que là, ça paraît mal, là, parce que ça a comme pas marché, là, mais tout le long que je le regardais, là, il était une coche au-dessus de tout le monde. Il était une coche au-dessus de tout le monde, puis sortait des vidéos de ses deux années au tournoi de Team Canada Junior. Il était éblouissant. Il était vraiment bon. C'est pas le gars le plus flashy au monde, mais il a un hockey IQ incroyable. Il a un bon coup de patin. Puis il est quand même capable de bien circuler la rondelle. Moi, je pense que si on lui donne du lousse un peu, là, il peut juste y avoir des bonnes choses qui se passent avec lui.
Peut-être faire sortir Jordy Benn aussi, au balotage.
Mais bon.
Je préfère quand même Jordy Benn, vu son impact salarial, à Osner. Fait qu'ils sont plus
les deux. Ouais, mais d'après moi, il y a plus de chances que Jordy Benn passe au balotage qu'un Carl Osner.
Non. En fait, Osner a bien plus de chances de ne pas être réclamé. Mais...
Oui, mais ouais. Mais je suis pas sûr que Bergevin passe dans le même pareil.
Effectivement.
Non, tu sais, parce qu'Osner, t'es pris avec. Là.
Oui, non, c'est ça.
Ad vitam aeternam.
Ouais.
Ça finit, le show? T'as assez, là?
Ça a l'air.
Ouais, okay, c'est bon. merci, Sylvain, pour ta participation. Si les gens veulent te retrouver sur le web, comment peuvent-ils faire?
Twitter, @SlyRyu. Sinon, maintenant que j'ai mes admins sur la POC, j'y participe beaucoup. Puis, c'est ça. C'est comme pas mal ça, là.
Yes. Toi, de ton côté, Jerry?
@godbou25 sur Twitter, puis même chose sur la page de la POC. Je réponds rarement, mais si j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire.
Cool. Et moi, de mon côté, @gangji_b sur, bien sûr, la POC et sur Facebook. La page Facebook de la POC, on est là. Sur Twitter, @lapocpodcast et aussi sur Facebook, on a notre page avec même le groupe de discussion, les Pockés s'expriment. Sur lequel, entre autres, Marc-Antoine qui jase allègrement, qui compile nos résultats des playoffs, mais c'est un arnaque, là, cette affaire-là, là, ça compte pas vraiment. Tout le monde là-dessus, vous êtes les bienvenus, on accepte tout le monde sur la page, venez jaser avec nous autres, et clairement, nos ratings augmentent quand il y a de la nudité. C'est ce que j'ai compris avec le draft et avec la célébration de la Coupe Stanley des Caps de Washington avec la photo de la fille qui s'est décidée de se montrer les seins. Donc,
l'autre qui avait décidé de ne pas mettre de culotte au draft puis de se pencher en arrière de Côte Canine.
Ça a augmenté notre visibilité pour le meilleur et pour le pire. Ouais.
Hey, je peux pas croire qu'il s'est pas plugué lui-même, là, mais il n'y a pas un de nous autres qui vient de se partir une page de basket aussi.
Ben oui, c'est vrai. Regarde, c'est tellement récent.
Tu fais ça? Hey,
ça, c'est une passe à la palette, là, mon gars. Là,
oh, ouais, t'es beaucoup plus allumé que moi en ce moment. Là. Non, oui, effectivement, je me suis parti une page de basket parce que c'est mon deuxième sport favori.
Je pense que c'est ton premier Québec. De ce temps-là. Hein.
Oui, dernièrement, pas mal, oui. Mais il se passe pas un plus de stock. Allez où Québec? Je vous dirais qu'en ce moment, c'est vraiment à l'état...
Embryonnaire,
effectivement, dans le sens que je partage vraiment tout ce que je partageais en fait sur ma page personnelle. Mais là,
fait que tu nous crisses patience si on ne tripe pas basket, c'est ça que tu veux dire? Yes.
Oui, c'est en plein ça. En fait, j'ai créé ça pour ça, demandé par mon ami William, « Hey man, je t'ai bloqué, je t'ai amené, regarde, je vais partir une page. »
En fait, moi, j'ai plein d'amis qui m'ont remercié quand j'ai créé la POC parce que tout le stock que je partageais de hockey, ben, je le fais sur la POC à cette heure. Fait qu'il y a plein de monde qui ont fait comme, « Ah, si, je suis plus envahi. »
Ouais, ben, oui, en fait, c'est un peu pour ça. Puis j'espère que le projet va aller plus loin. On verra. Je me donne une chance. J'ai planté une graine. On va voir ce que ça va faire. C'est tout.
Jerry plante des graines. Sur ce, on va se laisser en musique. C'est la demande, bien sûr, de Jean-Philippe Vandal. Il m'a demandé les Denis de Relais avec un échange de félins. C'est ce qu'on va aller écouter en fin d'émission. Je vous remercie les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. Je vous invite à nous supporter sur Patreon. Encore une fois, vous avez vu, on a mis nos différents perks. Comme on en a parlé, on aimerait vraiment ça que vous nous aidiez à améliorer le show. Ce serait vraiment très, très apprécié. Pour l'été, comme je l'ai déjà mentionné, on a grosso modo deux émissions qui devraient venir quelque part durant l'été. J'ai la possibilité de discuter et d'enregistrer une entrevue, un podcast avec un ancien directeur général de la LHJMQ. Donc, je vais voir avec lui là, c'est quoi ses disponibilités. Et aussi avec un chercheur universitaire dans le domaine des commotions cérébrales. Donc, c'est un domaine qui est vraiment d'actualité dans le hockey. Et on aura donc deux émissions quelque part cet été. Sinon, ben on se retrouve quelque part au travers là, du début du camp de rentraînement du Canadien de Montréal, peut-être même autour du tournoi de golf. Là, c'est pas mal le début officiel de la saison médiatique du Canadien. Donc, c'est un petit peu plus loin, c'est dans quelques semaines. D'ici là, ben, je vous souhaite de bien profiter de l'été, moins s'il y a de la canicule, d'avoir du plaisir, de recharger vos batteries. Et nous, on va revenir pour, je pense, c'est notre cinquième saison l'année prochaine dans la POC. Donc, merci d'être aussi nombreux au rendez-vous et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode. Bye bye tout le monde!
Salut tout le monde!
Embrasse un bibelot, console un costaud, chuchote du vinyle, chatouille un gorille, roule-toi dans du beurre, enfin de la vapeur, menace de la cannelle, chie un arc-en-ciel. Donne-moi ton cougar, je te donne mon guémard, un échange de félins. Frappe des marionnettes, appelle-moi Claudette, mange du maquillage, c'est qui ça, email? Croque dans un vélo, tatou des gars chauds, sac de sucre, Luc. Donne-moi ton cougar, je te donne mon guépard, un échange de félins. Fais-nous des steppettes, lance des castagnettes. Hey, fais-nous ton numéro. Y'a l'air rigolo à poil couché sur le dos d'un slip and back. Zombies, siffle les chauves-souris, salut les citrouilles, une barbe à quenouille, caresse un bécherel, vomit une chapelle, casse des imprimantes, kick une pieuvre pis chante. Donne-moi ton cougar, je te donne mon guépard, un échange de slipping by.
En plus, on lui donne l'occasion de se plugger
pour
que ce soit moi qui le
plug.
Ben oui,
c'est non, ça. Christy Dalton, moi, j'avais carrément oublié cette affaire-là.
Dans l'une, mon c'est... Jerry, dans l'une.
C'est probablement la plus belle pause de l'histoire de l'univers.
Ah, oh, j'ai scoré dans un autre désert.
Non, en fait,
j'avais la chance de scorer mon 50e en 50 games dans un petit désert, mais je t'ai fait la passe.
Et non, plus que ça, c'est le chinois au dortoir à l'Université Laval.
Là. Ah, sacrément, ouais. Hey, c'est vrai que j'étais un asti bon wingman.
Chris, que t'es hot.
J'étais un esti bon wingman, là, Jerry.
Il est dans le néant, là, mais...
Oh, non, j'ai aucune idée de quoi tu parles.
Faut que tu comptes ça, sincèrement.
Ok,
là.
Okay. Je t'ai fait l'histoire vite. Là, 4 ans, j'ai pogné pour déménager à Québec. Bref, histoire courte, ça prend comme un mois tout organiser ça, mais il fallait que je sois déjà à Québec. Fait que ma job me louait une chambre à l'Université Laval en plein mois de juillet. T'sais. Ça coûtait pas cher, il n'y a pas d'étudiants ou presque. Mm-hmm. Bref, fait que là, je couchais là. Puis là, tu sais, c'est comme poche. Mais tu sais, il y a des parties pareilles. Tu sais, il y a des étudiants qui sont là. Pareil. Puis bref, il y a un soir qui avait un party Baywatch. En tout cas, la grosse histoire. Puis, genre, il est comme 3 heures du mat, là. Ça cogne à ma chambre. Je suis comme, bon, il s'amuse, allez chier, tu sais. Mais là, ça cogne, puis c'est insistant. Puis là, je suis comme, voyons, tabarnak. Tu sais, puis là, c'est... Derek? Derek? Fait que là, je rouvre la porte. Là, c'est comme... Elle fait comme... Hey, you're not Derek? Puis là, je fais comme... No, I'm not Derek. Elle est comme... But where's Derek? Mais tu sais, elle est finie bien dure, là. Tu sais, comme elle se tient vers le cadre de la porte, tu sais. Puis là, je fais comme... Well, Derek's not here. It's my room, and I'm the only one here. Can I wait for Derek in your room? Là, je suis comme, ben non, tu sais, parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, t'aurais dû arriver là 15 ans avant, c'est petite conne, là, mais bref. Bref, là, je suis comme, ben non, mais en même temps, la porte en avant de la mienne s'ouvre, puis c'est un Asiatique qui est là, mais tu sais, c'est un Asiatique que quand je le rencontrais dans les couloirs, tu sais, il disait bonjour, mais il regardait par terre, tu vois, genre, là. Vraiment, oh. le prototype même de l'Asiatique. Fait que, tu sais, comme il ouvre sa porte, tu sais, pis elle dit, can I wait in your room? Fait que là, je fais comme, no, I gotta work tomorrow morning, but maybe you can wait in his room. Pis là, lui, genre, il me regarde, pis genre, ses yeux sont débridés. Fait que là, fait comme, that's a good idea. Fait que là, ça se finit là. Fait que là, moi, le lendemain matin, tu sais, des douches communes. Fait que là, je m'en vais prendre ma douche. Pis là, comme je reviens, la fille fait son walk of shame parce qu'elle a défoulé, puis c'est ça. Puis là, juste comme j'arrive pour rentrer dans ma chambre, le dude asiatique s'en vient me voir. Hi, my name is Lynn. Thank you very much. Thank you, thank you. Et là, j'ai fait comme, je suis le meilleur wingman de l'histoire.
Oh, man!
C'est
drôle, ça.
Hey, là, Sylvain, tu, moi, j'enregistre encore, c'est clair que je me sens en bonus après les tunes.
Ah, tabarnak.
Okay. Man, t'es le good guy dans cette histoire-là. C'est génial.
Écoute, je suis vraiment le meilleur wingman de l'histoire parce que en plus, elle était pas d'un lait choquant, en plus. Là.
Ah ouais?
Ouais, elle était quand
même. T'es juste un petit peu laide, là.
Non, elle était comme, tu sais, elle était quand même assez jolie. Tu sais, même éméchée. Elle était quand même jolie.
Elle était pas dans la ligue du chinois, là.
Non, clairement pas. Puis son walk of shame du lendemain matin, il était vraiment beau. T'sais, moi, je l'ai croisé, puis je vais être comme, hey! T'sais, mais avec le gros smile, tu sais. Mais lui, après ça, écoute, écoute.
C'était clairement devenu son meilleur ami, là. Il t'a amené des egg rolls pendant 6 mois, là.
Tellement gentil, comme à chaque shot que je le croisais après, tu sais, c'est comme, hey, Sylvain, how are you? Tu sais, yes, Steven. Ouais. Fait que meilleur wingman de l'histoire, c'est moi.
Yes.
C'est épique, ça.
Écoute, puis si tu me passes sa palette solide, là, tu sais.
Ah ouais.
Enfermé entre quatre murs d'une couchette d'université, là, c'est clair, c'était pas catholique ce qui se passait là.
Non, c'est sûr et certain, là. C'est sûr et certain que, tu sais, lui, genre, il doit s'en. C'est sûr qu'il s'en rappelle encore, mais tu sais, je sais même pas si ça y est réarrivé encore après de se tremper le pinceau.
Ah, t'es de mauvaise foi.
Quoique peut-être que 4 ans plus tard, il est peut-être médecin. Fait, il y a des bonnes chances.
Ouais, c'est ça, il est top ingénieur chez IBM. Il peut tout nous acheter 8 fois s'il veut. Là.
C'est ça, tu sais. Puis il y a probablement une fille qui est beaucoup plus hot que ça.
Il a plus confiance en lui depuis ce temps-là. C'est ce qui a fait toute la différence. Sans toi, Ben, il s'en allait vétérinaire quelque part en Asie. Là. Puis là, finalement, il est chez IBM puis il y a des parts dans la compagnie. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est tout grâce à toi.
Voilà.
Chris Chelios, je le sais pas si t'as un gros pénis, mais une chose est sûre, c'est que t'as gagné 3 fois le trophée Norris. Quand t'es dans le slot, hostie que tu joues chien, t'es slashing en masse, en arrière t'es patins, t'es encore des bords, quand le soleil se lève, ma fin de l'année c'est
jeune, t'en as fait des conneries. T'en as brossé de la marde dans ta vie. C'est pas un scoop, tout le monde est au courant. T'as fourré la femme du président. Christian Young, t'es mon héros. À l'étoile mondiale, Chicago. Je l'ai broyé le propre pendant un match de série. Sammy Ronick Stall en beau fusil. Ta foire a pogné, ça c'était le bon du temps. Toi t'as jamais eu la chienne de jeter les camps. On t'a échangé contre Denis Savard. T'as pas été le meilleur grade de Serge Savard. T'es devenu capitaine des Blackhawks. Parce que là-bas t'en as bloqué tes shots. Aujourd'hui tu frappes d'house avec Darren McCarty. Une coupe de Suédois que Kirk Morby. Il y a 20 ans tu buvais avec Shane Corson. Mais dans le caniché pis Brian Scrudlin. Chris Chelios, t'es mon héros. À l'étoile mondiale, Chicago. Toi qui score, j'aimerais bien te voir battre un nouveau record. J'aimerais bien te voir dépasser Gordie Howe. T'es allé 11 fois au match des étoiles. Sa route, tu te gênes pas pour te mettre à poil. C'est clair, c'était toi, mon idole de jeunesse. Avec un gant denté, je te donnerai une petite tape ses fesses.